Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est terminé pour les relocalisations de réfugiés, ce qui signe aussi la fin de 2 ans de polémique en Europe. Au total, quelques 29 000 personnes ont été relocalisées dans l'Union depuis l'Italie ou la Grèce, ce qui était censé soulager ces deux pays débordés par l'afflux de migrants. Le bilan paraît faible, mais la Commission européenne se refuse pour l'instant à parler d'échec. En attendant, des dizaines de milliers de réfugiés attendent de connaître leur sort un peu partout sur le continent. En Bulgarie, des réfugiés syriens installés près de Sofia auront finalement droit à des papiers d'identité. Un combat de haute lutte dans des communes souvent hostiles. Et c'est le reportage de Damien Vodenicharov.
Edin Pelin, une bourgade près de Sofia d'un peu plus de 7000 habitants. C'est dans cette petite ville que Fahim et Fatima Jaber se sont installés il y a un an. Le couple syrien a quitté Alep pour rejoindre leur fils Mohamed en Bulgarie. La famille Jaber a obtenu un statut humanitaire. Cette forme de protection est souvent accordée aux Syriens qui fuient la guerre et leur donne les mêmes droits qu'à tout Bulgare de souche. Tout s'est bien passé pendant plusieurs mois. Mais c'est au moment d'obtenir une carte d'identité bulgare que les choses se sont compliquées. Le maire de la ville a tout simplement refusé de leur fournir des documents. En plus, toute la famille a dû faire face à plusieurs dizaines d'habitants mécontents qui ne voulaient pas qu'on leur donne des papiers. Fahim m'explique.
Ça nous a marqué psychologiquement et moralement. On a eu peur, on ne voulait même plus sortir. Malgré tout, on veut rester en Bulgarie. Nous avons été victimes de manigances politiques d'un groupe de nationalistes et le maire s'est soumis à leur demande.
Issu d'un parti nationaliste, le maire de la ville, Ivailo Simeonov, met en garde contre ce qu'il appelle la boîte de Pandore. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube à destination de ses administrés, il justifie sa politique, celle que voulaient les habitants selon lui.
Dans ce cas, c'est sûr que cette famille fuit la guerre, mais ce n'est pas le cœur du problème. Derrière eux, il y a une horde qui attend, que nous essayons d'arrêter depuis plus de 6 mois. Il y a déjà eu plusieurs tentatives d'installer des Afghans. Tout ce que je fais, c'est défendre vos choix. Je suis prêt à tenir un référendum pour que chacun puisse s'exprimer sur les réfugiés.
Pour Simeonov, les habitants de la ville sont aussi des victimes qui restent sans voix contre les manipulations politiques. Pas étonnant alors que ces tensions surgissent juste avant les législatives anticipées qui se sont tenues en mars. Les partis nationalistes ont obtenu des résultats records qui leur ont permis d'entrer au gouvernement. C'est le cas de Valérie Simeonov, aujourd'hui vice-premier ministre chargé de la politique démographique. Récemment, il expliquait sur les plateaux de télévision à quel point cette situation était dangereuse.
Personne ne dit que les Syriens sont mauvais, c'est juste qu'ils ne sont pas acceptés dans notre communauté à Elin Pelin, c'est le plus important, et on prend leur destin trop à cœur à travers les émissions et les médias. On leur demande carrément où ils aimeraient habiter. Mais dans nos villes, les Bulgares ont aussi le droit de décider qui peut devenir leur voisin. Le maire a bien raison de défendre les intérêts de ses concitoyens. Si cette famille reste là, quelqu'un pourrait mettre le feu à leur maison. Comment vous sentiriez-vous alors?
Finalement, la famille Jaber a bien obtenu ses papiers d'identité. La réponse des autorités a tardé tout au long de la période électorale. D'après Akram Nayouf de l'association Syrie Libre, qui vient en aide aux réfugiés, les institutions sont restées muettes.
Je me suis tourné vers le président, vers le premier ministre intérimaire à l'époque. Le Parlement était dissous, donc je ne pouvais pas me tourner vers les élus. J'ai écrit au défenseur des droits, au préfet, au procureur général. Personne n'a rien fait. C'est seulement avec l'aide des médias qu'on a pu gagner cette bataille. Et c'est une victoire pour tous les Bulgares contre le radicalisme et le discours de haine.
La famille Jaber est loin d'être la seule à avoir fait face au mécontentement populaire. Des parents se sont opposés à ce que des petits Syriens soient dans la même case que leurs enfants. Un village près de la frontière avec la Grèce a refusé d'accueillir 2 mineurs afghans. Les réfugiés et la police se sont affrontés dans le plus grand camp du pays il y a 1 an. 4 ans après la première vague migratoire, l'accueil de demandeurs d'asile demeure un sujet sensible et donc facile à utiliser à des fins politiques.
Ah, comme Allemagne, parce qu'il faut commencer par les meilleurs, ou les femmes, mais comme Belgique, le pays est chelou, mais pour les gosses, ils sont magiques, c'est comme Chypre.
sensible également une certaine critique de l'Union européenne. Et oui, le Parlement européen qui censure, c'est possible. Le groupe d'extrême gauche GUE avait pour projet une exposition de caricatures grecques sur un ton satirique. Les dessins dénoncent l'Europe à plusieurs vitesses ou la montée du populisme. Mais l'institution a décidé de censurer plusieurs de ces caricatures pour non-respect des valeurs de l'Union. Lakshmi Lotha nous raconte tout cela.
Ils ont finalement renoncé à monter leur exposition. Les membres du groupe GUE, Gauche Unitaire Européenne, portent des t-shirts avec les dessins concernés et cette inscription « censurée ». Les murs resteront vides. Pour l'eurodéputé Stelios Kouloglou, c'était tout ou rien.
Moi, j'étais à la fois surpris et aussi triste de ce qui s'est passé. Parce que effectivement, on dit ici qu'on a le droit aux paroles, le droit à l'expression, l'expression artistique. Tout d'un coup, il y a une question qui dit que non, ça va pas. Il y a que deux solutions. Soit l'exhibition sera faite toute entière, soit on fait rien.
Le député a donc choisi de ne pas exposer. Sur les dessins publiés en ligne, on peut par exemple voir plusieurs chefs d'État européens sur la ligne de départ d'une course automobile. Angela Merkel, la chancelière allemande au volant d'une Porsche, et Alexis Tsipras, le grec, au rennes d'une calèche tirée par un retraité grec. Autre exemple, un dessin montrant des enfants attablés, leur bouche ensanglantée et criant « Nous voulons l'Europe même si nous mangeons des pierres ». Au départ, le collège, chargé de vérifier si les expositions sont compatibles avec les valeurs de l'Union, avait exclu 12 images pour finir par revenir sur sa première impression et ne censurer que 5 images. Les 5 caricatures qui faisaient des comparaisons avec le nazisme ont été jugées offensantes et haineuses, explique le service de presse du Parlement européen. Une image montre un salut nazi sortant de terre dans un cimetière ou encore dans un sablier, le drapeau européen se transforme en drapeau nazi. C'est au contraire pour dénoncer la montée de l'extrême droite, explique le porteur du projet. L'eurodéputé souhaite maintenant organiser une nouvelle exposition avec des dessinateurs de toute l'Union européenne.
Les jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors ça y est, hein, on y est. L'université fait sa rentrée dans la plupart des pays européens et quelques 20 millions de jeunes retrouvent le chemin des amphithéâtres. Et de nombreux étudiants vont cumuler cette année encore travail et études pendant leur parcours, souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Une tendance qui s'accroît, Eve, et que l'on analyse aujourd'hui avec vous.
Oui, selon l'Observatoire de la vie étudiante qui a publié son enquête au printemps dernier, ils sont 1 sur 2 à avoir un petit boulot, 46% exactement. C'est déjà 1% de plus qu'il y a juste 3 ans. Et n'allez pas croire qu'ils ne travaillent que l'été ou pendant les vacances, car la plupart de ces emplois s'étalent sur de longues périodes, au moins 6 mois dans l'année.
Alors, ces jobs ont souvent un impact négatif sur leurs études, on aurait pu le deviner.
C'est eux-mêmes qui le disent. 1 sur 5 considère que ce travail se pose même en activité concurrente de ses études. Et la même proportion juge que l'impact est globalement négatif. Tous reconnaissent aussi sans surprise que travailler en plus des cours est surtout une source de stress et de tensions nerveuses.
Un sentiment qui se vérifie aussi dans les statistiques de la réussite des examens, Eve.
Eh oui, malheureusement, selon l'INSEE cette fois-ci, un jeune qui travaille plus de 16 heures par semaine, c'est-à-dire en gros à mi-temps, a environ 36% de chances de réussir à ses examens contre 66% des étudiants non salariés et 56% de ceux qui travaillent moins de 16 heures par semaine.
Alors j'imagine que la principale raison avancée par ces jeunes, c'est de financer une partie de leurs études.
Oui, enfin plutôt d'améliorer leurs conditions de vie pour les trois quarts. Le besoin d'affirmer son indépendance vis-à-vis de ses parents est aussi très important. Mais pas seulement, beaucoup de jeunes valorisent leur démarche en espérant acquérir ainsi une expérience professionnelle, une première expérience qui leur servira plus tard dans leur insertion sur le marché du travail.
Et c'est là que nos voisins européens auraient peut-être quelque chose à nous apprendre.
Oui, car en termes d'emploi chez les jeunes pendant les études, certains pays européens ont pris un peu d'avance. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le travail aux études. Je m'explique. Plutôt que d'aller chercher une activité rémunératrice en dehors des amphis, celui-ci l'intègre à son programme sous forme d'apprentissage, d'alternance ou autre. Résultat, au Danemark, 40% des jeunes étudiants travaillent de manière encadrée pendant leurs études, 38% aux Pays-Bas, 25% en Allemagne ou encore 20% au Royaume-Uni. Tandis qu'en France, les cursus qui offrent cette possibilité ne concernent aujourd'hui que 15% des étudiants.
D'autant que dans les pays que vous citez, le taux de chômage des jeunes est souvent bien en dessous du taux français. Faut-il y voir là un lien de cause à effet ?
Oui, alors pas forcément, hein, même si on connaît aujourd'hui le rôle de l'apprentissage dans l'insertion professionnelle, notamment dans les pays du Nord et l'Allemagne. Ces pays ont aussi des modèles sociaux et démographiques très différents du nôtre, donc tous les paramètres sont à prendre en compte dans le calcul du chômage des jeunes. Reste que dans ces pays, les formules qui mélangent travail et études, en ne se rendant par exemple qu'à la fac une semaine sur deux ou trois jours par semaine, ou en réservant un semestre entier à une expérience dans la vie active, font aujourd'hui le plein d'étudiants et surtout font rêver une partie des étudiants français.
Oui, car les intérêts de la formule sont multiples, Eve.
D'abord parce que cela aide les étudiants à prendre confiance en eux et à apprécier leur valeur sur le marché du travail, mais aussi parce que cela leur permet de commencer un carnet d'adresses. Et on sait que chaque expérience professionnelle peut en cacher une autre. Enfin, parce que cela leur permet plus tard d'étoffer leur CV et de mieux négocier leur premier salaire à la sortie des études. De quoi faire plancher un petit peu les présidents d'université en cette rentrée. Allez, je vous donne 4 heures, le temps d'une dissertation.
Merci Amino, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Excuse me, sorry, do you speak English?
No, I don't, sorry.
Oh.
It's one of those things where I wish I paid more attention in school, but, excuse me, sorry. Do you speak any English?
English? No. What's the problem?
Et ce sera un plus pour les étudiants finlandais de Espoo qui veulent travailler à l'étranger. La grande ville près de Helsinki, siège social de Nokia, a décidé de voter que l'anglais serait désormais la troisième langue officielle avec le finnois et le suédois. Pauline Curtet.
Dans les hôpitaux, à la mairie et sur Internet, tous les services municipaux d'Espoo, en plus d'être disponibles dans les deux langues officielles de la Finlande, le finnois et le suédois, doivent désormais être accessibles en anglais. C'est une petite révolution pour la ville de 270 000 habitants qui va devoir former tous ses employés à la langue anglaise. Le coût de ce projet est pour le moment difficile à déterminer car tout dépend des besoins de chacun. Beaucoup de Finlandais parlent déjà l'anglais couramment. Le but de l'opération est d'accueillir plus d'investisseurs et des travailleurs étrangers très qualifiés, par exemple des programmeurs informatiques. Après tout, Espoo, c'est la ville qui abritait le siège social mondial du fabricant de téléphones Nokia, devenu Microsoft, et cette voisine d'Helsinki veut à tout prix rester l'une des villes à l'économie la plus performante de Finlande. Cela dit, la décision n'a pas plu à tout le monde. Au conseil municipal d'Espoo, des membres du parti d'extrême droite, des vrais Finlandais, se sont insurgés. Pourquoi vouloir attirer des étrangers pour travailler alors que nous avons du chômage en Finlande? Si quelqu'un veut travailler ici, il doit apprendre le finnois, a martelé l'un de ses représentants, Simo Grönros. Mais chez les habitants d'Espoo, interrogés par la presse locale, peu de polémique. L'un d'entre eux remarque même que pour faire des économies, la ville devrait plutôt se débarrasser du suédois comme langue officielle, bien moins parlée que l'anglais. Mais pour cela, il faudrait changer la constitution finlandaise, ce qui n'est pas près d'arriver.
I like to rise when the sun she rises early in the morning.
Cela ne vous aura pas échappé, l'automne est déjà là en Europe et en Irlande, la saison est synonyme de championnat de labour, un gigantesque salon de l'agriculture à ciel ouvert où les professionnels découvrent des innovations techniques et s'affrontent amicalement. L'agroalimentaire est un secteur important pour l'Irlande puisqu'il représente environ 9% de l'emploi. Le rendez-vous est donc l'occasion de prendre le pouls de toute la profession inquiète de l'avenir. Reportage à Tullamore, Julien Lagache.
Un premier sillon, un deuxième au retour, puis une manœuvre avant de couper le moteur. John Slattery descend de son tracteur, son visage strié de rides est marqué par les années d'expérience et de travail au champ, mais il continue de savourer ce rendez-vous annuel.
Ma première compétition, c'était à Galway en 1963. J'en ai manqué quelques-unes, mais ça doit être ma 50e édition. J'en ai gagné quelques fois, mais ça remonte à 2008. Je suis moins bon maintenant. Il est temps d'arrêter. Plier bagages, pas vrai ?
À 70 ans passés, le vétéran de l'orge et du blé a passé la main. Son fils a repris l'exploitation familiale et il ne conduit plus que pour le plaisir. Car les championnats de labour, c'est aussi ça. Tom Gorman est lui aussi venu pour le divertissement. Il habite à quelques kilomètres du site. Il en profite donc avec sa femme et ses 3 enfants.
J'aime bien voir les nouvelles machines agricoles, les inventions, tout ça. Et puis le reste de la famille adore les stands des commerçants et surtout les animaux. Allez, viens voir les moutons, hein. Et maintenant, direction les vaches.
That's where we're heading for.
Car ici, on trouve également des manèges, des sports gaéliques ou une épreuve de lancer de bottes en caoutchouc. Ces attractions attirent un public qui dépasse le cercle des simples professionnels. D'ailleurs, l'événement a encore rassemblé cette année près de 300 000 visiteurs, malgré la pluie. Mais au milieu de cette insouciance, Joe Healy a la tête ailleurs. Le patron du principal syndicat de paysans s'inquiète du Brexit et du retour d'une frontière avec l'Irlande du Nord.
L'Irlande est le pays le plus exposé au Brexit et l'agriculture, le secteur le plus affecté. 40% de l'agroalimentaire que l'on exporte part vers la Grande-Bretagne. Les producteurs de bœuf, par exemple, perdent de l'ordre de 2 millions d'euros par semaine, juste à cause de l'incertitude sur les négociations et les fluctuations de la livre sterling.
Et ici, aucun professionnel ne se risque à un pronostic sur l'issue des négociations entre Londres et Bruxelles. L'incertitude, l'impuissance domine plutôt l'état d'esprit des participants au championnat de labour. Cela se sent particulièrement chez John Witcherly, éleveur dans le comté de Cork, au sud de l'Irlande.
Eh bien, c'est vrai qu'avec la Grande-Bretagne, notre secteur va être touché, c'est sûr. Alors bon, on croise les doigts. Je ne pense pas qu'on soit préparé. Maintenant, est-ce qu'on se prépare ? J'espère.
Pourtant, les affaires marchent plutôt bien pour John, qui possède une centaine de vaches laitières pour la production de fromage. Or, le prix de vente au litre est au plus haut, mais l'apparente bonne santé du secteur cache un avenir plus sombre avec le Brexit, explique John Comer à la tête d'un syndicat de producteurs de lait.
60% du cheddar que l'on produit part en Grande-Bretagne. C'est un volume phénoménal. Et si on envisage une relation commerciale future, avec des tarifs sur les produits européens à destination du Royaume-Uni, c'est là que nos problèmes vont commencer.
Alors que la fête bat son plein sur le vaste terrain humide et boueux qui accueille l'événement, les agriculteurs ne veulent pas rester embourbés dans un Brexit à l'issue incertaine et ils espèrent surtout que Londres restera au moins dans l'union douanière.
Et on termine avec ce retour sur la place Taksim d'Istanbul, une place devenue célèbre à l'été 2013 avec ses immenses manifestations de l'opposition turque. Moins célèbre mais tout aussi symbolique, un opéra s'y trouve, ou plutôt s'y trouvait. Laissé à l'abandon, le centre culturel Atatürk est au cœur d'une bataille politique que nous raconte Anne Andlauer.
C'est un grand bloc rectangulaire à la façade d'acier et de verre qui contemple la place Taksim depuis près d'un demi-siècle. Des milliers de personnes passent devant chaque jour, mais plus personne ne le voit et plus personne ne l'entend. Le premier opéra digne de ce nom en Turquie, qui a porté sur scène d'innombrables ballets, concerts et pièces de théâtre, ce palais de la culture d'Istanbul, de son ancien nom, devenu centre culturel Atatürk, du nom du fondateur de la République, n'est plus qu'un bâtiment fantôme. Une façade triste, aux verres brisés, une salle de 1300 fauteuils qui pourrissent sous la poussière, une scène vide où l'on ne joue plus rien, sinon au chat et à la souris, littéralement parlant. Depuis 2008, l'Atatürk Kültür Merkezi, ou AKM, est fermée pour des travaux de rénovation qui n'ont jamais eu lieu. Tout était prêt pourtant, les plans, l'argent. Brièvement, en 2012, les ouvriers se sont mis au travail, et tout s'est arrêté à partir de mai 2013. Cet été-là, la place Taksim est devenue le centre d'une contestation contre le pouvoir turc. La Camée était un refuge pour les manifestants qui avaient couvert sa façade d'immenses affiches et de slogans. Et puis Gezi s'est essoufflé. Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, désormais président, a annoncé dans un discours que la Camée serait détruite. La police s'y est même installée un temps pour en faire un commissariat. L'ambition du chef de l'État est de raser le bâtiment pour y refaire un opéra. Le projet déchaîne les passions comme tout ce qui touche à l'héritage du fondateur de la République. Les opposants de Tayyip Erdogan l'accusent de vouloir effacer les traces de Mustafa Kemal Atatürk, de s'offrir son grand opéra, comme il s'est offert un gigantesque palais à Ankara. Le futur opéra, s'il devait voir le jour, ne serait d'ailleurs pas la seule nouveauté de Taksim. En face de la Kémé, une mosquée est en construction, une autre promesse d'Erdogan pendant les manifestations de Gezi.
Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants le journal.